20e Altermardi, parlons solutions, sous les auspices de Futuring Press, pour s'interroger sur les nanotechnologies au secours du vivant, à moins que cela ne soit aussi le contraire. L'évidence est que face à cette aptitude à la manipulation du vivant, la société civile a le devoir d'être informée et de faire agir le principe de précaution.
Un Altermardi, parlons solutions, a priori, un peu à part en apparence en tous les cas de l'entrepreneuriat social classique, les nanotechnologies en question. Tout d'abord, que sont les nanotechnologies ? Jean-Michel Cornu, directeur scientifique de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération.
Les nanotechnologies, c'est un truc assez étonnant, puisque en fait, on connaît notre monde, la dimension que l'on a, donc au mètre, etc. Et d'ailleurs, on pourrait faire des milli-technologies, et puis tout le monde s'en fiche. Quand on est passé aux micro-technologies, on n'en a pas fait tout un foin. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose d'intéressant en dessous de 100 nanomètres. Et puis au-dessus de 1 nanomètre à peu près, puisque en dessous, c'est la mécanique quantique, c'est des tas de choses. Alors là, on ne sait pas très bien faire des tas de choses. Donc entre 1 et 100 nanomètres, il se passe trois choses assez étonnantes. La première, c'est que le volume est moins important que la surface. Donc c'est un peu comme si vous imaginiez un grand ballon, vous mettez des milliers de petites billes dedans, le volume sera à peu près équivalent, mais regardez la surface de toutes ces petites billes-là, ça représentera bien plus de surface que le gros ballon. Donc finalement, la surface devient tellement plus importante qu'en nanotechnologie, on fait des pneus par exemple, ou des choses comme ça. Deuxième chose, 100 nanomètres, c'est le quart de 400 nanomètres. Et 400 nanomètres, c'est quoi ? C'est le début de la lumière visible. Donc la lumière visible, entre 400 et 800 nanomètres, lorsqu'on sait fabriquer des choses un petit peu au quart, quand on s'est bidouillé au quart de cette taille-là, on commence à faire des choses très intéressantes. Par exemple, il y a 15 ans, lorsque vous mettiez de la crème solaire sur la tête.
Oui, sur le visage.
Vous étiez tout blanc. Et c'était pas très très beau, mais voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant, vous avez peut-être remarqué que, c'est plus le cas, parce que maintenant, la crème solaire, elle est peut-être opaque aux ultraviolets, mais elle est devenue invisible. Pratiquement ou transparente à la lumière solaire. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle utilise des nanomatériaux, des nanoparticules d'oxyde de titane qui permettent ça. Donc ça fait à peu près 15 ans que vous mettez déjà des nanos. Donc c'est quand même une vieille histoire, les nanotechnologies. Et puis la troisième chose, après les surfaces qui deviennent importantes, donc on peut jouer à Spider-Man si vous voulez, il y a des gens d'ailleurs qui travaillent dans les laboratoires pour faire ça, ou alors vous pouvez travailler et vous amuser à faire la cape d'invisibilité d'Harry Potter. La troisième chose, c'est que c'est aussi la taille qu'a choisi le vivant. La brique de base la plus importante du vivant, probablement, sous la cellule, c'est vraiment la protéine. La protéine, c'est l'usine à tout faire. C'est-à-dire que les protéines, vous avez des protéines qui marchent à deux pattes dans vos cellules. Vous avez des protéines qui font des mouvements mécaniques, d'autres qui font de l'optique, de l'hydraulique, enfin des choses absolument incroyables. Et ces nano-usines, elles ont une taille compatible avec les nanotechnologies. Ce qui veut dire que pour le meilleur et pour le pire, vous êtes capable, nous sommes capables maintenant d'ailleurs de faire des technologies où nous pouvons détecter une cellule cancéreuse avec un certain nombre, comme les protéines peuvent détecter les choses, et donc mettre par exemple une petite boule avec un médicament dedans et que lorsqu'elle arrive et qu'elle détecte une cellule cancéreuse, hop, la petite boule s'ouvre et vous donne le médicament. Donc plutôt que de mettre des traitements sur l'ensemble de tout le corps avec tout ce que ça amoche, pour le cancer, on peut fabriquer des choses très intéressantes. Et puis aussi par hasard, vous pouvez fabriquer un système qui ouvre la clé qu'il ne fallait pas et mettre le bazar dans vos cellules. Donc finalement, ces trois choses-là, surface, lumière et puis biologie, c'est à la fois toutes les possibilités extraordinaires de la technologie et puis tous les risques.
Voilà, c'est simple. La nanotechnologie, c'est la manipulation possible du vivant, pour le meilleur et sinon pour le pire, pour l'inconnu. Dorothée Benoît-Brovers, déléguée générale de Vivagora, association impliquée dans l'organisation de débats sur les enjeux contemporains des choix scientifiques et techniques.
Dans les nanotechnologies, il y a énormément de produits qui sont sur le marché aujourd'hui, qui contiennent des nanoparticules, par exemple du nano-argent dans les textiles, dans les chaussettes, du nano-titane dans les peintures, les ciments, dans les cosmétiques. Et donc typiquement, ou même du nano-silice dans les aliments. Et là, justement, il y a une question de savoir si l'innovation est responsable et tient compte de l'ensemble de la société. La solidarité, c'est de ne pas faire valoir une seule logique qui serait aujourd'hui strictement financière. Et donc s'intéresser à ce que des citoyens qui n'ont pas la parole, peut-être d'ailleurs les plus faibles, soient respectés, ça c'est un enjeu de développement éthique des technologies.
On peut être cobaye, à la limite cobaye pour un médicament, c'est plus embêtant que quelqu'un qui, parce qu'il y a des nouvelles technologies, connaît ma vie privée. Je pense innocemment que ma vie privée n'intéresse à la limite qu'une personne.
Oui et non, parce qu'en fait d'abord ça commence à devenir une valeur marchande très intéressante votre vie privée. Mais par contre, lorsque vous êtes cobaye pour un médicament, ça se sait, et il y a des protocoles extrêmement longs d'ailleurs, puisque la mise sur le marché d'un médicament est assez longue. Donc avec les nanotechnologies, vous pouvez pouvez faire des médicaments, comme on le disait tout à l'heure, avec par exemple des médicaments ciblés, vectorisés comme on les appelle, qui permettent de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses. Mais aussi on fait des matériaux. La vitesse de mise sur le marché des matériaux, alors là c'est pas la même. Si vous avez des nanotubes de carbone par exemple, eh bien c'est des petits fils finalement, lorsqu'ils sont assez longs, finalement ça vous rappelle pas un peu l'amiante tout ça. Alors effectivement ça se comporte pas de la même manière parce que c'est plus petit. Donc au lieu d'arriver jusque dans les bronches et de mettre à peu près 20 ou 30 ans à vous faire un cancer de la plèvre, ça passe déjà dans les voies orales et on sait que certains effectivement sont mauvais. Par contre, il y a d'autres nanomatériaux qui sont peut-être totalement inoffensifs. Et la plus grande majorité, on ne sait pas.
Divagora, c'est une association qui s'est donnée comme objectif de contribuer à la mise en culture de l'innovation, c'est-à-dire la mise en société pour que les projets soient d'abord dans l'espace public, que les gens soient informés, parce qu'en général, tout ce qui est technologie émergente, ça passe au-dessus de la tête des gens, donc il faut les informer très très précocement, et faire en sorte que le débat puisse avoir lieu entre les différentes parties prenantes, de manière sereine, non pas le débat qui va arriver en bout de chaîne, où tout sera déjà ficelé, où on ne pourra pas peser, mais un débat où on intègre véritablement les citoyens dans l'innovation, pour que l'innovation soit ajustée, et qu'il n'y ait pas en fait un clash à la fin d'une part qui n'est pas bon pour l'industrie et un clash pour aussi les citoyens qui se retrouvent par exemple dans le domaine de la santé environnementale avec des pesticides qu'ils n'ont pas forcément voulu.
En plus c'est quand même une vieille histoire parce que je vais vous citer une nanoparticule que vous connaissez très bien, c'est la nanoparticule de diesel et donc on a pas mal de voitures diesel. Alors on sait par contre que celle-là elle est toxique. Alors là l'avantage c'est qu'on le sait, elle est même extrêmement toxique et pourtant on a trouvé une solution, c'est que le risque il n'est pas simplement que dans la toxicité. Il y a un autre facteur important, c'est l'exposition. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait des peaux catalytiques, par exemple. Bon, je ne vous conseille pas de dormir sous votre peau catalytique, mais en même temps, l'exposition est suffisamment faible pour que le danger soit, le risque soit moindre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut essayer de réduire ce risque. Alors, on peut le réduire de plusieurs façons. Si vous avez des nanotubes et on sait qu'effectivement, il ne sait pas très très bon respirer, vous pouvez les noyer dans une certaine masse et donc vous allez donner de la force, de la résistance. On peut faire des ailes d'avion, limite extrêmement légère, extrêmement solide, donc très bien, mais on a intérêt à ne pas les laisser simplement à s'envoler à l'air libre, donc on peut imaginer des choses comme ça. On a aussi des accords qui nous permettent sur les matériaux dangereux de pouvoir faire des choses, c'est des accords riches qui sont pour la chimie, mais manque de chance, comme on le disait tout à l'heure, la chimie c'est plutôt quelque chose où on compte tout en volume et en poids, et les nanos, on compte en surface. Et donc en fait, tous les accords tels qu'ils sont faits pour essayer de répertorier à partir de certaines tailles les choses pour savoir exactement, on ne fait pas n'importe quoi avec tous les produits dangereux, ils ne sont pas très bien adaptés. Donc, il est urgent aussi d'avoir des éléments d'exposition, aussi pas simplement de toxicité. Et ça, c'est un vrai travail à faire, mais aussi de comment on expose les gens ou non, on évite de les exposer justement aux matières dangereuses, mais spécifiquement nano, c'est-à-dire de la surface ou des choses comme ça.
Le citoyen peut vraiment s'insérer dans un débat même de haute technologie.
C'est difficile, c'est un défi considérable que celui d'Ivagora là-dessus, parce que justement, y a un accès déjà à la compréhension de ce qu'est la technologie, de ce qu'elle implique comme enjeu, de ce qu'elle implique comme impact dans toutes ses dimensions. Et ça veut dire une certaine pédagogie. Mais vous savez, je pense que les citoyens, ils n'ont pas forcément besoin de tout comprendre pour poser les bonnes questions. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent poser avec leurs questions à eux, avec leur préoccupation, qui a l'avantage d'intégrer tout un tas de choses. Le citoyen, c'est celui qui porte un peu l'intérêt général. Donc, il peut faire valoir l'avenir, les générations futures. C'est important.
Quel est le gap entre le développement et la diffusion des nanotechnologies et la prise de conscience par le public?
Le gap, pour moi, il est très important au milieu. Je m'explique. Vous avez des gens qui sont, par exemple, des industriels qui vous connaissent très très bien le domaine. Les hommes politiques ne sont pas forcément toujours bien formés à ce domaine-là parce que ils doivent gérer l'ensemble de la société, donc ils ne connaissent pas tout. Et puis, vous avez quelques personnes dans la société civile qui vont bien connaître les aspects. Si cette situation-là reste trop longtemps, on va OGMiser, si vous me passez l'expression, le débat sur les nanotechnologies. On va avoir les pour, les contre, et puis après, on jette tout, on garde tout, et finalement, finalement, la question n'est plus tellement très intéressante, elle est même extrêmement dangereuse, puisqu'on a une fracture de la société. Donc, ce qui me semble le plus important, effectivement, c'est que le retard, il est effectivement chez tout le monde. Alors, on nous dit, mais vous savez, c'est un aspect très techno, c'est compliqué à comprendre, etc. Alors ça, ne croyez pas tous les gens qui vous racontent ça. Tout à l'heure, en deux minutes, vous avez demandé ce que c'est que les nanotechnologies. Je vous ai expliqué ça en trois points, en vous disant qu'entre 1 et 100 nanomètres, c'est-à-dire à peu près le 10 millième d'un cheveu, en fait, on coupe pas les cheveux en 4, on les coupe en 10 000, eh bien, vous avez des effets de surface, des effets de lumière et des effets biologiques. Eh bien, ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Et là, par contre, eh bien, c'est important que tout le monde puisse comprendre ça et puis comprendre exactement qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Et donc, aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est pas tellement la société civile dans le sens de la société civile militante, mais c'est la société civile dans le sens citoyenne, dans son ensemble, où finalement, eh bien, on doit pouvoir choisir plutôt que d'être simplement guidé par des intérêts qui sont militants ou industriels ou commerciaux.
Et l'innovation sociale dans tout ça ?
Il y a plusieurs couches dans l'innovation. Imaginez une fusée, en fait, avec une première couche qui serait, au départ, on parlait d'innovation technologique. À l'époque, on ne parlait pas encore d'innovation sociale. On disait, voilà, tout va passer par la technologie. Alors oui, bien sûr, ça a fait des choses. Et puis, on voit avec les nanotechnologies qu'il y a des évolutions technologiques et des évolutions scientifiques. D'ailleurs, en fait, c'est intéressant, il y a aussi des évolutions architecturales. Si je fais une petite parenthèse, Internet, il n'y a pas grand-chose de nouveau au niveau techno. Par contre, qu'est-ce que ça change au niveau architectural ? Et donc, qu'est-ce que ça change au niveau économique, sociétal, etc., etc. Donc, on voit déjà que, oui, d'accord, il y a une influence. Après, vous avez l'innovation de service. Alors, c'est vrai qu'après, on peut inventer des tas de choses. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que je vais faire des pneus comme ceci ? Est-ce que je vais pouvoir faire des médicaments et mieux soigner ? Est-ce que je vais pouvoir rendre l'eau potable là où elle n'était pas ? On sait que c'est un des grands enjeux du 21e siècle. Et donc là, je peux offrir des services. Et puis, l'autre partie un peu cachée, cette fois, ça serait l'innovation d'usage aussi. C'est ce que les gens en font vraiment aussi. Et puis, la troisième couche, parce que ça, c'est bien, mais ça ne suffit plus aujourd'hui, c'est quel sens ça a pour la société ? Et donc, il y a des innovations sociales qui sont technologiques, il y a des innovations sociales qui ne sont pas technologiques, c'est-à-dire comment on vit mieux ensemble, ça peut être par des matériaux, par la possibilité d'avoir de l'eau pour tout le monde, mais ça peut être aussi simplement par des nouveaux modes d'organisation coopératifs ou des choses comme ça. Et donc, cette troisième couche ne vient pas remplacer les autres, mais vient de surajouter. Aujourd'hui, parler d'innovation sans parler d'innovation sociale, ça n'a plus aucun sens. La fille cachée, d'ailleurs, d'innovation sociale, ça serait intéressant, ça serait peut-être l'innovation économique. Quand on voit déjà ce qui s'est passé sur l'Internet, dans le numérique, où nous sommes passés d'une musique qui était attachée à un bout de plastique, qui s'appelait CD ou micro-sillon, à une musique qui est attachée à rien, donc qui est à bien non rival, comme disent les économistes, eh bien, il se passe des choses très très intéressantes et les solutions passent par des nouveaux modèles économiques. Donc, quels sont les modèles économiques qui nous permettent de favoriser une innovation sociale qui va dans le sens de ce que on pourrait penser comme désirable, voilà des questions intéressantes. Donc plutôt que d'avoir des questions pour ou contre les nanotechnologies, pour ou contre telle chose, faut-il de l'innovation sociale, etc. La question c'est comment. Comment on va pouvoir essayer de trouver des bonnes solutions pour choisir, pour faire des innovations sociales. Et parce que finalement, la seule question qu'il y a derrière toutes ces technos et tous ces trucs-là, c'est finalement comment on vit ensemble.